Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Il est 14h03 et on est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec Thibaut Texer, Perico Collégas, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Dans un instant, on se posera cette question dans l'émission. Faut-il supprimer les zones à faible émission? Aujourd'hui, un automobiliste sur deux en France est empêché de rouler dans les grandes agglomérations car il n'a pas la vignette adéquate. On sera bien sûr avec Pierre Chasseret, le directeur général de 40 millions d'automobilistes. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous avec des révélations concernant l'affaire des implants contraceptifs Bayer. Il y aura ensuite les immanquables, toutes les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, et on terminera avec un très beau cadeau à gagner.
Et oui, la Coupe du Monde a déjà commencé sur RMC. Nous avons décidé de vous envoyer au Qatar pour suivre le match Tunisie-France. Ce sera le 30 novembre prochain. Vous pouvez aussi rencontrer l'équipe d'RMC présente sur place. Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Le grand gagnant sera à l'antenne vendredi 30 septembre.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à la révolte du jour. C'est celle de l'association 40 millions d'automobilistes qui fustige les zones à faible émission. Aujourd'hui, près d'un automobiliste sur deux en France est empêché de rouler dans les grandes villes car il ne respecte pas, Thibaut Texer, les critères environnementaux des fameuses ZFE, les zones à faible émission.
Et oui, ces vignettes, elles sont classées en 6 catégories. Elles sont accolées sur votre pare-brise. Elles permettent de classer tous les véhicules motorisés en fonction de leur émission en particules fines et oxyde d'azote. Objectif, réduire la pollution dans les centres-villes. Le chiffre le plus élevé, plus le chiffre est élevé, plus votre véhicule pollue. Elles sont obligatoires pour circuler dans ces zones à faible émission. Tu l'as dit, Estelle, au nombre de 10 dans l'Hexagone, dans les régions de Paris, Marseille, Strasbourg, mais aussi Nice, Reims, Toulouse ou encore Lyon. Un dispositif lancé en 2016 par Ségolène Royal pour succéder à la pastille verte dans certaines de ces communes. Comme la capitale, les véhicules immatriculés avant 2005 ont par exemple l'interdiction de circuler dans cette zone, soit plus de 4 millions de véhicules. Les 9 millions de véhicules de catégorie 3 seront à leur tour exclus à compter du 1er juillet 2023, c'est-à-dire les véhicules immatriculés avant 2010 pour les diesels et 2005 pour une essence. En cas de non-respect, vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros.
Alors, faut-il supprimer les zones à faible émission? Perico Légas.
Je crois quand même que c'est une conquête écologique simple. Qu'elle a son avantage, qu'elle fait partie des priorités environnementales dont il faut faire preuve. Alors, c'est une contrainte. Oui, je suis d'accord, Jérôme. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Je dis pas que c'est la solution et je pense que ça n'a aucune incidence sur le climat de la France. Voilà. C'est un symbole. Il faut qu'on roule avec des voitures propres et il y a des endroits du centre-ville où
mais là, le problème des ZFE, c'est que tu prends en compte avec la vignette critère, non pas la propreté de ton véhicule, mais son ancienneté.
Non, mais la mesure est idiote. Sauf que le sens de la mesure est compréhensible. Mais telle qu'elle est là.
Aujourd'hui, tu roules en bioéthanol, tu peux avoir une critère 5.
C'est ça. En pratique, c'est aberrant. Alors, philosophiquement, c'est une idée.
Non.
Oui, mais non. À un moment donné, il faut quand même limiter, tu vois.
Mais pas comme ça.
Et est-ce que c'est écolo de te dire, si toi t'as une vieille voiture, de toute façon, la plupart des Français ont des voitures qui ont 15 ans. Donc, tu as une voiture de 15 ans qui roule très bien. Ton contrôle technique, il est parfait. Et on te dit, bah non, monsieur, vous pouvez pas rouler. Donc, en fait, tu vas te séparer d'une voiture qui roule très bien pour en acheter une autre. Ça, c'est écolo. Imagine, tu ferais ça avec ta machine à laver la vaisselle. Qu'est-ce qu'on dirait? On te dirait, mais ça va pas bien, ta machine à laver la vaisselle. Elle marche hyper bien. Et tu la changes pour en avoir une qui est plus propre. Bah non, on te dirait, bah non, super. Bonjour, le surconsommérisme.
Oui, mais enfin, c'est pour un véhicule qui pollue moins aussi.
Mais pas forcément, parce que si tu roules en bioéthanol, tu pollues pas.
Pour moi, on a pris le problème à l'envers parce que les gens qui sont concernés, qui ont des vieilles voitures, j'imagine qu'a priori, ce sont les gens qui ont peut-être le moins de moyens. Évidemment. Et le fait est qu'aujourd'hui, tu vois, moi, j'ai acheté une C4 Picasso en 2016, 20 000 euros. Mon copain garagiste me dit, l'as fini ta voiture parce qu'aujourd'hui, elle en vaut 38 000 avec le même nombre de kilomètres. Et je peux pas, moi, aujourd'hui, me racheter une voiture si la mienne, en plus, critère arrive sur Dijon cette semaine. Vraiment, c'est le débat qui tombe pile poil.
Elle est en critère quoi, ta voiture? voiture ?
Eh bien, je ne l'ai pas encore calculé, j'ai posé le faire avant l'émission, je suis censé le calculer là.
2016, ça va, 2016,
ça devrait aller, je pense. Mais tu vois, c'est bon. En admettant que ça aille pas, si j'avais gardé ma vieille bagnole d'avant, en admettant que ça aille pas, tu te rends compte, moi qui habite à 30 bornes de Dijon, qui ai 4 enfants, qui n'arrête pas de faire le taxi à droite, à gauche, les écoles, le conservatoire, le basket, le je sais pas quoi, les courses, aller voir mes parents, que sais-je, je serais complètement bloquée. Ouais. Et c'est moi qu'on va punir alors que j'ai pas les moyens de me racheter une voiture. Donc est-ce qu'on n'a pas pris le problème à l'envers ? C'est la question que je me pose. Et est-ce qu'on n'aurait pas pu déjà aider ces gens-là ? En plus des voitures qui souvent, comme tu disais, passent le contrôle technique, elles sont nickel, oui, elles sont impeccables. Et pourtant, il va falloir les désinguer parce qu'elles sont pas intéressantes. Enfin, on marche sur la tête avec cette histoire.
Moi, ce qui me tue, franchement, c'est le bioéthanol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as un boîtier bioéthanol, donc tu ne pollues pas et t'as même pas la vignette critère qui va avec. Ça, c'est hallucinant, en fait. Alors que tu pollues moins qu'une voiture neuve, voilà, qui roule au gasoil. Donc, il y a un truc qui va pas, Jérôme Lavrieux.
Mais moi, je suis effaré.
Je crois que je suis un peu de parti pris sur ce dossier.
Je suis effaré. Je roule aussi au bioéthanol.
D'accord.
Je suis effaré de ce genre de dispositif. Ça n'a aucun sens écologique. Aucun. Parce que ça voudrait dire que, comme le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête aux frontières et que la pollution d'un bassin
tu
de vie
pas la campagne,
va s'arrêter au pourtour du centre-ville. En fait, faire la ZFE, ça consiste à envoyer quel message ? C'est-à-dire d'envoyer le message aux gens qui sont les plus modestes, qui se saignent aux quatre veines, qui n'ont jamais acheté de voiture neuve de leur vie, qui n'ont accès qu'au marché de deuxième ou troisième main, parce que c'est une nécessité absolue, parce qu'en plus on les a relégués dans des endroits où le métro n'arrive pas, où le tramway n'est pas existant, où il n'y a pas de bus en site propre. Ils n'ont aucune alternative pour aller bosser en centre-ville, pour aller servir le pain au bourgeois du coin qui est avec sa bagnole, qui est au critère 1 sans aucun problème, qui garde dans son parking souterrain, et lui, il ne va pas pouvoir s'en servir. C'est de l'assignation à résidence des plus pauvres de chez nous dans les banlieues. On leur dit, vous voulez bien venir balayer chez nous, nettoyer chez nous à pied si possible, mais venez pas avec votre voiture. Et en plus, pour aucun gain, parce que ça veut dire que ça s'arrête aux frontières de la ville. Mais enfin, quel est le génie qui peut faire ce genre de raisonnement ? C'est totalement absurde, c'est indécent économiquement, c'est indécent écologiquement, c'est une claque dans la figure des gens qui peuvent pas changer leur voiture. Moi, je le vis parce qu'il m'arrive de travailler régulièrement dans la banlieue lyonnaise. Ah oui, dans le centre de Lyon, il n'y a pas de problème pour les écolo-bobos. Ceux qui habitent à Rieux, ceux qui habitent à Bron, ceux qui habitent à Vénissieux, bientôt on va le faire à Périgueux si ça continue ce genre de conneries.
Ah bah ça va être partout. Et à Lyon, ils ont
monté la surface.
Fait comment ? Alors, on aide pour les véhicules propres. Si vous achetez un véhicule neuf, vous avez une aide. Bravo, mais il y a des gens qui jamais de leur vie ne pourront acheter un véhicule neuf.
C'est ça.
Et même s'ils changent leur véhicule d'occasion tout pourri, qui pollue beaucoup, je sais que c'est un drame, pour en racheter un d'occasion qui pollue moins, ils auront zéro aide, ceux-là. C'est eux qu'il faut aider en priorité. L'assignation à résidence, en plus, par en général, des municipalités qui sont de gauche, ça m'effraie. Je trouve ça totalement hallucinant.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux même plus acheter une voiture d'occasion parce que les prix ont flambé. Il n'y a plus de voiture neuve, il n'y a plus de composants. Donc, je dis, les prix ont flambé sur le marché de l'occasion. Et évidemment, après, tu penses bien que les concessionnaires, ils ne sont pas idiots. Comme ils voient passer ça, toutes les voitures qui vont être critère 3, elles vont prendre 20-30% dans les prochains mois. De toute façon, il n'y a plus de bagnole. Donc, en plus, tu vas être obligé d'attendre 6 mois. Ta voiture, 6 mois, 1 an. Et elle sera 20-30% plus chère. Donc,
exactement.
C'est absolument aberrant. Mais en tout cas, il y a Pierre Chasseret qui est avec nous, qui est bien sûr le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes et qui pousse un coup de gueule ce matin dans le Parisien. Bonjour Pierre Chasseret.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Bonjour. Et alors, Pierre, vous êtes vent debout, Pierre Chasseret, contre ces zones à faible émission.
Oui, c'est une catastrophe Estelle. C'est la plus grosse bombe à retardement social qui existe aujourd'hui. En fait, il faut bien comprendre ce qui se passe. Au début, c'était des mesures de Parisiens. Donc, quand vous êtes sur Paris ou à 10 km de Paris, il y a toujours une solution, des transports en commun, un bus, un tram. On peut, à la limite, s'en sortir. Mais là, ça y est, ça arrive dans toutes les autres villes. Ça arrive à Rouen, à Reims, à Dijon, dans toutes les métropoles. Attention, j'ai fait une bêtise, j'ai dit ville. Non, dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants. Ça veut dire que vous avez, je prends un exemple, vous avez une Clio 2. Vous devez aller sur Toulouse. Eh bien, c'est fini. Pour vous, vous ne pourrez plus y aller. Sinon, ce sera 68 euros à l'aller, 68 euros d'amende au retour. Eh bien, ça, ce n'est pas admissible. On va mettre en dehors des métropoles 48%, c'est-à-dire la moitié des Français. Comment voulez-vous que ça se passe bien ? Donc aujourd'hui, oui, on arrive avec trois volets dans notre action à 40 millions d'automobilistes. Une proposition de loi pour faire interdire les zones à faible émission qu'on a poussée. Une action juridique pour jouer sur le classement des vignettes critères parce qu'il est injuste. Vous avez des véhicules qui ne méritent pas la vignette critère qu'ils ont parce que c'est une mécanique d'ancienneté de véhicule et même pas de pollution. C'est et ça. Puis on arrive aussi sur un troisième élément, on va venir, je vais venir personnellement dans toutes les régions pour recueillir les témoignages de chacun. Ils vont monter dans ma voiture, on va filmer, on va mettre des petites caméras, un peu comme un youtubeur presque. Mais au moins, on va compiler les témoignages, et tous ces témoignages, on les enverra aux élus de chaque région pour leur faire prendre conscience de la nécessité absolue de revenir sur ce dispositif. Moi, je veux que ceux qui travaillent à Dijon, qui travaillent à Toulouse et qui n'ont pas la chance d'avoir le véhicule que souhaite Monsieur Macron, je veux qu'ils puissent aller bosser.
Mais Pierre, après, on a longuement parlé ici dans cette émission du fait qu'il n'y avait plus de policiers sur le bord des routes. Donc, qui va contrôler ? Il y a quand même, mais il y a une très faible probabilité que votre véhicule soit contrôlé, à part si le pot d'échappement, il y a de la fumée toute noire.
Non, Jérôme, c'est pas comme ça.
Moi, j'ai jamais été contrôlé par rapport à ma vignette, donc j'ai pas d'ailleurs.
Non, mais c'est la véhicule va être garé dans le centre de Lyon.
Ouais.
S'il a pas la bonne couleur, le type qui te fait le truc pour l'amende de stationnement, bim, t'as ça en plus.
Ah, je l'avais pas.
Alors, c'est pire que ça. En fait, vous aurez des systèmes de radars qui vont être mis en place, qui ont été annoncés par l'ancienne ministre de l'écologie, Barbara Pompili, qui était venue à Toulouse, décidément, pour venir expliquer fière d'elle qu'elle allait mettre en place des systèmes radars d'ici 2022. On aura tous bien compris que c'est une épine dans le pied du président de la République et qu'il n'a pas très envie de le faire tout de suite. Retraite plus interdiction de circuler, moi j'ai envie de dire,
ça complique la vie.
Ça s'appelle un haratiri politique. Donc, moi ce que je propose, c'est tout simple. Je pense qu'il faut entendre les arguments écolos et la volonté de vouloir améliorer la qualité de l'air. Mais on peut pas oublier qu'on ne peut pas se permettre de mettre au rebut la moitié de la population française.
Oui, mais Pierre, si les vignettes, par exemple, critères, en fait, au lieu d'être sur un critère de longévité du véhicule, elles étaient vraiment sur un critère polluant. Bah là, ça paraîtrait sensé à tout le monde, en fait. Le problème, c'est les critères, en fait, de cette vignette critère, d'ailleurs.
Mais non.
Ah bah si.
Pas. En fait.
Bah c'est si, un si tu pollues, ça c'est quand même normal que si tu pollues. Enfin, on en voit encore des véhicules, bah, de moins en moins, mais des vieux véhicules. T'as de la fumée noire qui sort. Bon bah là, c'est pas possible.
Renault 19.
Ça on peut plus, Pierre. Le contrôle technique est là. Ils sont déjà verbalisés. Il y a un contrôle technique des émissions polluantes. Voilà. Si vous avez votre contrôle technique, vous avez le droit de rouler. C'est aussi bête que ça. Et puis il y a aussi l'acceptabilité sociale. Vous pouvez pas mettre en place une mesure qui exclut la moitié des Français. Ça n'a pas de sens.
C'est sûr.
Et voilà. Les plus modestes.
Ça exclut la partie la plus pauvre de la France. Évidemment, les riches, ça les gêne pas. Bah, enfin, Pierre, si t'es riche, tu t'achètes un véhicule électrique et tu t'en fous.
Estelle, quelle était ta première voiture?
Une Twingo.
Bon, on est bien d'accord, cette voiture, aujourd'hui, elle n'aurait pas le droit de circuler. Ouais. Est-ce que nos enfants, on va leur acheter un véhicule électrique flambant neuf?
Non. Ils vont
commencer par se faire la main sur une petite voiture.
Mais nos enfants, ils n'auront pas de voiture parce qu'ils prendront les transports en commun, déjà.
Quand vous habitez à 30 bornes de Rouen, les transports en commun...
c'est compliqué.
Ça s'appelle une mission, c'est Rambo. On peut pas. Donc, soyons un petit peu honnêtes, essayons de reprendre un petit peu de calme dans ce dossier. Je pense que ce qu'il faut mettre en place... C'est jouer sur la temporalité. Il faut décaler dans le temps la mise en place des zones à faible émission.
Ce qui a déjà été fait, Pierre.
Non.
Non.
En fait, ce qui a été fait, alors oui et non. C'est-à-dire que dans la région Île-de-France, par exemple, ce qui a été fait, c'est qu'ils voulaient être plus royalistes que le roi. C'est-à-dire qu'ils voulaient mettre en place avant la date butoir des ZFE.
C'est ça,
ils voulaient mettre
ces
mesures en place. La date butoir en France, dans toutes les métropoles de plus de 150 000 habitants, c'est le 1er janvier 2025. Et puis, il y a des communes qui font du zèle, qui ont envie de passer à la télé.
Les métropoles.
Ils mettent les mesures avant.
Vous avez plein de messages, Thibault, sur ce sujet.
Il y a beaucoup de messages. Je vais prendre deux messages qui résument un petit peu la tendance générale, notamment Nicolas qui nous dit que lui, avec ses ZFE, on oblige les voitures soi-disant plus polluantes à faire plus de routes, puisque si, par exemple, on veut aller du nord de Paris au sud de Paris, en évitant cette zone, on est obligé de faire plus de kilomètres.
Donc... Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça.
Et oui, lui, c'est totalement aberrant.
C'est aberrant.
Et puis il y a Sébastien aussi qui dit qu'on nous a vendu pendant des années le diesel et qu'aujourd'hui on nous dit le diesel,
ça, c'est vrai,
c'est terminé, il ne faut plus. Donc du coup, les véhicules diesel sont davantage concernés que les véhicules essence avec ces vignettes.
Oui, et notamment, et puis en plus, il y a aussi le diesel qui coûte plus cher que l'essence aujourd'hui.
Possible,
donc t'as vraiment la double peine quand t'as pris malheureusement une voiture au diesel parce que le gouvernement te disait qu'il fallait prendre du diesel. C'est quand même incroyable. On est avec Christophe qui nous appelle d'Annecy. Bonjour Christophe.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour. Christophe, est-ce que vous pouvez encore rouler à Annecy ?
Oui, on peut rouler difficilement, mais j'anticipe déjà, je suis entrepreneur et je prends plus de chantiers dans le centre-ville.
À cause de ça ?
Ah oui, bah parce que j'anticipe. Bientôt, nous, on a, enfin, moi, j'ai des camions, même le plus ancien, il doit avoir 6 ans, et en fait, c'est des camions au diesel. Et en fait, dans quelques années, on ne pourra plus rentrer dans le centre-ville. Donc,
il n'est pas plus rentable de se dire, je vais changer les camions plutôt que je ne prends plus de chantier.
Ah ben, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà pris une entreprise dans l'investissement en électrique? Voilà, pour le moment, on n'a pas de camion électrique.
Non, c'est sûr. Non, c'est sûr, bien sûr.
Quoi que ce soit. Et puis, le fait est que l'investissement est très lourd. Et là, on ne sait pas où on va dans les années à venir. Et ça va être compliqué. Déjà qu'on n'arrive pas à se garer. Donc, moi, j'imagine les gens dans le centre-ville, le jour où ils auront besoin d'un plombier, puis qu'ils ne puissent plus rentrer avec sa voiture diesel ou sa camionnette diesel, je pense que ça va être un peu l'âme, comme je dirais, problématique pour eux. Donc, en fait, on insiste, on augmente encore un trafic pendulaire, c'est-à-dire que les gens ils vont devoir aller plus loin, de plus en plus loin pour venir travailler en centre-ville et de faire de plus en plus.
Ils vont polluer ailleurs, quoi.
Ils vont polluer ailleurs. Et c'est. En fait,
mais c'est ridicule.
On met la charrue avant les bœufs, en fait.
Et vous êtes pour la suppression de ces zones, Christophe?
Je ne suis pas pour la suppression de ces zones, mais qu'on aille un peu plus doucement, ou qu'on permette aux artisans au moins d'aller en ville, le temps de faire le changement de leur véhicule. Surtout que sur Annecy, c'est comme sur les belles villes ou les grandes villes, c'est-à-dire que les gens qui ont les moyens, ils habitent dans la ville. En fait, qui maintenant, Annecy, c'est devenu aussi une ville R&B, donc tous les gens sont partis à l'extérieur. Par contre, on est obligé d'aller travailler à l'intérieur.
Oui, bien sûr. Non, et puis évidemment, ça vous pénalise, c'est sûr.
Ça nous pénalise, et puis on n'arrive plus à se garer. Donc, moi, pour ça, je prends plus de chantier au centre-ville, ou alors, il faut les prendre très cher. Mais à un moment, plus personne ne pourra payer.
Ouais, mais c'est dramatique ce que vous dites, Christophe, et c'est vraiment hyper intéressant comme témoignage. Merci beaucoup. Et là, on voit bien, effectivement, on a pas parlé des camions électriques pour les artisans, etc. Mais ça aussi, c'est un vrai problème. Les artisans, déjà, ils sont pénalisés par l'inflation, la hausse des matières premières. Si à un moment, ils peuvent plus prendre de chantier en centre-ville, parce qu'en plus, ils peuvent pas se garer.
C'est ça.
Bah, il y aura plus d'artisans, et puis voilà, quoi.
J'allais dire, on marche sur la tête, on roule sur la tête. Enfin, et c'est pas la première fois qu'on entend des témoignages.
Hein. C'est l'écologie punitive. Si vous voulez dégoûter tout le monde de l'écologie, allez-y comme ça. Oui. Et là, tout le monde aura perdu.
Ouais. Même si t'es quand même obligé de prendre en compte la pollution.
Il faut quand même réfléchir au problème.
Oui,
c'est ça. D'accord, mais là, la technologie n'est pas prête pour avoir les camions électriques.
Le renouvellement du parc automobile, y compris, et dont les gens qui ne peuvent pas s'acheter du véhicule neuf,
qu'ils aient une aide.
Qui n'ont accès qu'à l'occasion.
Mais tu peux au moins, accéder au fait que les véhicules bioéthanol puissent rentrer dans les centres-villes, l'hydrogène également. Enfin voilà, tous les véhicules, il n'y a pas que l'électrique, en fait.
Les diesel Optibo aussi, on peut...
Mais en fait, c'est tous les véhicules qui ne polluent pas. Donc,
il y a un problème de parole de l'État dans la durée. Pendant des années, comme il le disait, on a dit acheter du diesel. Oui. On les a quasiment forcés puisque le coût d'achat était inférieur. Et en plus, le carburant était inférieur. Et puis après, l'État dit, ah ben non, en fait, on a changé d'avis, les gars. Mais démerdez-vous, vous n'avez pas d'argent pour payer, mais démerdez-vous, vous irez à pied. C'est genre, mais il n'y a pas de pain, mais qui mange de la brioche. Non, mais on est vraiment.
C'est pas le seul dossier. Hein. Les dossiers aussi de. Comment ça s'appelle ce qu'on met sur les toits là, pour capter le soleil, les capteurs solaires. L'État avait des panneaux solaires. C'était engagé il y a quelques années. Après, il s'est retiré. Puis maintenant, il se réengage. Enfin, moi, je comprends que les artisans, notamment, deviennent un peu dingues avec ces histoires de yo-yo, on va dire.
Antoine est ébéniste à Ajaccio. Bonjour Antoine.
Bonjour à vous.
Oula, Antoine, on vous entend très très mal. Allez-y.
Attendez,
c'est bien. Là, c'est parfait. Là. Ouais.
Alors, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Ne me coupez pas, c'est rapide. Hein.
Oui. Non, mais là, on n'entend pas du tout, Antoine. Il faut vraiment. Ça grésille. Essayez.
Ici.
Ouais, à peu près.
Bon, en fait, il y en a marre de vos discours court-termistes et victimaires.
D'accord.
Moi, Pierre, par exemple, à chaque fois qu'il y a un sujet sur les voitures, la tête cacherait.
Antoine, on va vous rappeler. Antoine, et franchement, on va vous rappeler parce que là, votre téléphone, il grésille trop et c'est un enfer. On va vous rappeler et on va essayer de gérer parce que voilà, ça peut être sympa d'avoir un
débat
entre Pierre Chasseret et Antoine qui manifestement n'est pas du tout d'accord avec lui. Pierre Chasseret, est-ce qu'il y a une chance que votre proposition de loi elle soit adoptée, c'est-à-dire supprimer les zones à faible émission, ou c'est juste comme ça un coup d'épée dans l'eau, un coup d'éclat?
Non, bien sûr qu'il y a une chance. C'est pas des coups d'éclat, c'est pas l'ambiance de la maison. Moi, ce que je veux, c'est gagner. J'ai toujours voulu gagner pour l'intérêt général des automobilistes. J'entends aussi tous ceux qui sont peut-être un petit peu mordus d'écologie, mais un petit peu trop loin. Et j'entends tous ceux qui disent les zones à faible émission, je trouve que c'est très bien, mais il faut une dérogation pour moi. Moi, mon job, c'est d'être 40 millions d'automobilistes. Mon job, c'est de défendre le pouvoir rouler de tous. Mon job, c'est de faire en sorte qu'on tombe pas dans les excès. C'est pour ça que notre mesure, ce qu'on propose, c'est de se remettre autour de la table et de faire un projet construit pour améliorer les émissions polluantes des voitures, mais sans rejeter 50% de la population. Et j'essaye d'avoir un discours le plus mesuré possible, parce que les extrêmes, c'est pas mon truc. Donc on essaye de se placer au centre de l'échiquier, de remettre un petit peu de bon sens entre les ayatollahs de l'écologie et puis ceux qui pensent qu'on peut faire tout et n'importe quoi, y compris polluer n'importe où. Non, il faut se battre évidemment contre les poubelles roulantes parce que c'est pas possible.
Évidemment. Mais de même,
il faut se battre aussi contre tous ceux qui veulent restreindre la mobilité. Voilà, ça c'est le leitmotiv de 40 millions d'automobilistes. Et c'est ce qui fera que je continuerai mon boulot, quand bien même ça plaît pas à tout le monde.
Alors justement, ça plaît pas à Antoine, hein, qui nous a appelé il y a un instant. On l'a retrouvé, Antoine, avec une ligne qui, j'espère, sera meilleure. Vous, Antoine, vous n'êtes pas du tout d'accord avec Pierre Chasseret.
Non, parce que en fait, moi, j'ai rien contre Pierre, hein, mais sur tous les débats, on appelle Pierre. Il faut rappeler que Pierre est payé pour dire ce qu'il dit. Il fait partie d'une asso.
On l'appelle sur l'automobile. Je l'appelle pas pour parler d'autre chose.
Du militantisme, une fois qu'on est payé, il y a moins d'objectivité, en fait. Maintenant, je voudrais avancer mes arguments. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, en fait, où ça fait 30 ans qu'on nous dit, je vote pas du tout écolo, hein, mais ça fait 30 ans qu'on nous dit, ah non, on peut pas faire ça, parce qu'il y a 1000 personnes qui vont être dans la merde.
Et voilà, c'est pas 1000.
Non, mais puis 10 ans après, on nous dit, ah, mais on peut pas faire ça, parce qu'il y a des gens qui vont être dans la merde. Mais moi, je voudrais vous expliquer votre raisonnement court-termiste, c'est que si on fait pas ça aujourd'hui, dans 10 ans, les gens qui peuvent pas payer leur voiture aujourd'hui, ils le pourront encore moins, parce que tout va augmenter. Donc, si on le fait pas maintenant, ceux qui peuvent pas le faire maintenant se retrouveront à pied dans 10 ans. C'est même pas qu'ils pourront pas faire 120 km ou aller en ville. Ils vont se retrouver à pied.
Ouais, mais Antoine, dans 10 ans, leur véhicule, il fonctionnera plus. Donc, évidemment, on est obligé de changer un véhicule quand il fonctionne plus. Mais là, aujourd'hui, ce sont des gens dont le véhicule fonctionne. C'est ça le problème. Et en fait, même si vous n'êtes pas écolo.
Continuons et retrouvons-nous dans le mur.
Donc on va non, c'est pas ça. Mais c'est juste Antoine, là par exemple en 2035, il y aura l'interdiction des véhicules thermiques partout en Europe, des véhicules neufs. Donc en fait, ne devançons pas et attendons. Tous ces gens qui aujourd'hui roulent
attendons
ces véhicules
on attend la fin des ventes thermiques pour changer. On attend, pas du tout. Comme ça, il faudra 15 ans après 2035 pour que ce soit effectif.
Antoine, quelqu'un qui a une voiture qui fonctionne très bien et qui a 15 ans, vous allez l'obliger à jeter sa voiture. Vous croyez que c'est écolo, ça ?
Je suis désolé, ça fait pas 2 ans qu'on parle d'écologie et de changement de voiture, ça fait 20 ans. Moi, j'ai 36 ans, j'entends ça depuis que je suis tout petit. Donc, arrivé un moment, ça fait 30 ans qu'on entend ce discours.
Et vous roulez en quoi, vous, Antoine ?
Tout le temps hypocrite.
Vous roulez en quoi, Antoine ?
Une voiture. Si en Corse, on passe critère, je sais pas quoi, je me fais défoncer. J'ai une Mercedes diesel de 2003.
Ah bah c'est mort pour vous.
C'est mort.
Bah oui, mais moi.
Et bah alors vous allez faire quoi ?
Bien commun. Bah je pense au bien commun.
Vous êtes ébéniste, vous allez faire comment pour bosser ?
Ben, je trouverai des solutions, je m'adapterai. Là, non, on est dans un pays où il n'y a plus personne qui veut s'adapter. On est des fragiles.
Mais si, au contraire.
On se plaint de tout le temps.
Non, Antoine, si je peux me permettre. Quelqu'un qui, parce qu'il gagne pas assez d'argent, n'a même pas accès au crédit pour acheter un véhicule neuf. Le problème que l'on a en ce moment, qui va durer encore 3 ans et demi, 4 ans, c'est qu'il n'y a pas de véhicule de seconde main électrique, notamment. Ah oui. Parce qu'on est en premier équipement en véhicule électrique, donc il n'y a pas encore de marché de l'occasion du véhicule électrique, qui serait beaucoup moins cher que le véhicule neuf.
Allez-y, Antoine, vas-y. Donc là, vous êtes en train de me dire que les gens, ils n'ont pas les moyens. Ok, oui. Jusque-là, je l'entends. Donc, vous êtes en train d'insinuer que les gens ont les moyens de payer leur vignette critère encore pendant 10 ans parce qu'ils ne veulent pas changer de voiture.
Mais on ne paye pas la vignette critère, oui. Elle est gratuite.
Elle vaut 2 euros. Hein.
Oui, mais ça vous empêche de circuler.
Mais non, justement, si on enlève les zones à faible émission, on ne sera pas empêché. Mais évidemment,
ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir, c'est dans le sens de l'histoire. Ça va pas t'arrêter.
Décidément, on l'a utilisé cette expression dans l'émission. Mais c'est pas ça, Antoine. C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a son véhicule qui fonctionne, dont le contrôle technique est parfait, parce qu'évidemment, si le contrôle technique marche pas, il faut dire stop. Peut-être qu'il faut renforcer le contrôle technique. Ça c'est possible. Mais à un moment, vous pouvez pas dire à quelqu'un qui a une voiture de 15 ans qui fonctionne hyper bien, bah non, tu prends plus ta bagnole. Il faut que t'achètes un véhicule électrique et mettre à la casse cette voiture qui de toute façon n'intéressera plus personne, parce que là, écologiquement parlant, quand vous mettez les voitures à la casse, passe, il me semble juste un petit coup écologique quand même, et je peux me tromper.
Oui, mais donc en fait, vous êtes en train de nous expliquer que les gens, depuis 15 ans, ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Quand on leur dit qu'il faut changer de voiture, qu'il y a l'environnement, que ça pollue, on n'écoute pas, on attend le dernier moment.
Mais Antoine, vous croyez que les gens, ils n'ont pas envie de changer de voiture? Mais ils ne peuvent pas.
Ils ont une nouvelle voiture, ils ne veulent plus changer.
Mais Antoine, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ces gens-là. Vous pensez bien, Antoine?
Ils ont acheté leur voiture polluante il y a 10 ans.
Mais Antoine, mais ils ne savaient pas que ça ne polluait pas. On parlait autant d'écologie il y a 10 ans.
Mais Antoine, une voiture qui a été vendue. Antoine. Vous disiez qu'il fallait vous laisser parler. Vous pouvez aussi laisser parler les autres. Un véhicule neuf d'il y a 15 ans pollue beaucoup plus qu'un véhicule d'occasion d'aujourd'hui. Oui. Parce que la pollution, notamment des moteurs diesel, c'est quelque chose sur lequel les constructeurs travaillent parce que les normes évoluent tous les 4 ans en moyenne, de manière très forte. Donc même un véhicule qui n'est pas tout neuf, qui n'est pas électrique, pollue beaucoup moins qu'un véhicule il y a 15 ans. Et l'âge moyen du parc automobile, je crois qu'il est de 7 ans. Donc vous voyez qu'on est en train de progresser et que les gens progressent, mais vous pouvez pas mettre un couteau sous la gorge. Si vous êtes artisan, on peut pas vous dire du jour au lendemain, eh bien vous pouvez plus vous servir de votre camionnette. Et vous dites, bah oui, mais j'ai pas de véhicule électrique de remplacement. Eh bien, allez-y à Dodane.
Bah merci beaucoup, en tout cas, Antoine, d'avoir appelé au 3216. Merci à Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui pousse un coup de gueule aujourd'hui dans Le Parisien sur les zones à faible émission. Alors, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Faut-il les supprimer, ces zones?
Et c'est assez surprenant, alors, parce que vous êtes 74% à penser que oui, il faut les supprimer.
Ah, c'est marrant, ça ne m'étonne pas.
Tiens.
Allez, dans un instant, on reparlera, vous savez, des révélations concernant l'affaire des implants contraceptifs Bayer. Ce sera dans RMC. S'engage pour vous, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. Et dans cette dernière partie, RMC s'engage pour vous avec Élise Donjon.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Élise, on revient sur l'affaire des implants contraceptifs Bayer. Vous en avez parlé il y a quelques semaines, ce sont les implants Essure. Réexpliquez-nous de quoi il s'agit exactement.
Alors, Essure, c'est un moyen de contraception définitive, un petit ressort implanté dans les trompes de Fallope porté par 200 000 femmes en France. Suite à une déferlante de signalements en 2017, l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, demande l'arrêt des implantations. En 2018, le laboratoire Bayer cesse de commercialiser le dispositif partout dans le monde. Mais 4 ans plus tard, des femmes continuent de découvrir des effets secondaires terribles au quotidien. Douleurs abdominales, fatigue chronique, maux de tête. Ce n'est qu'en début d'année qu'Irène a fait le rapprochement entre le port de son implant et les douleurs qu'elle subit depuis 10 ans.
Je me suis rendu compte au fil du temps que moi aussi j'étais victime de ça et que j'avais implanté une bombe dans mon corps. Sauf que là, ce qui est insidieux et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils ne fassent pas une information, parce que là, ça nous rabote la vie. Et en plus, c'est quelque chose qu'on a posé en nous parce qu'on aimait la vie, parce qu'on avait envie d'en jouir avec un dispositif de contraception qui nous permettait d'avoir une sexualité épanouie. Et pof, comme toutes les autres violences gynécologiques, ça nous rabote la vie, quoi.
Alors aujourd'hui, Irène prévoit de se faire retirer son implant. 30 000 femmes en France l'ont déjà fait. Et elle envisage aussi d'engager des poursuites contre le laboratoire Bayer.
Et ce ne serait pas la première fois, Élise.
Ouais, une action collective a même été lancée par l'association Résiste, qui nous a écrit et qui regroupe toutes les femmes victimes. Mais la justice n'a pas suivi. Comme souvent dans ce type de dossier, il est très difficile de prouver le lien entre le dispositif et ses effets secondaires. Pas de quoi décourager les femmes de se battre. C'est une information RMC que l'on vous révèle aujourd'hui. Le laboratoire Bayer sera jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans très exactement une semaine. Ah. 132 plaignantes réclament la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété. Elles sont défendues par maître Charles-Joseph Houdin.
En réalité, cette procédure vise à démontrer que ces femmes ont été exposées à un risque, qu'il se soit traduit ou non par des effets indésirables. Il a au minimum engendré une inquiétude, une crainte, une peur de développer des effets indésirables. De toute façon, toutes ces procédures visent à obtenir de la part du laboratoire, mais aussi des autorités publiques, une reconnaissance du problème lié au dispositif et bien évidemment d'une meilleure information.
Que disent les pouvoirs publics aujourd'hui, Élise ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces femmes, elles réclament d'abord d'être mieux informées et ensuite d'être mieux prises en charge. Nous avons donc contacté le ministère de la Santé qui s'était engagé en septembre 2020 à lancer un protocole de recherche. Mauvaise surprise, nous avons découvert que l'étude n'a toujours pas débuté. Elle ne démarrera pas avant l'année prochaine. Elle devait démarrer en ce mois de septembre. Quant à Bayer, le laboratoire nous explique que le contraceptif a été retiré du marché pour des raisons commerciales et qu'il s'agit d'un dispositif sûr.
C'est fou, c'est coïncidence.
En gros, ils vendent pas assez, donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé du marché. C'est ça l'idée.
Ils vendront plus du tout, même.
Bon, en tout cas, aux États-Unis, on l'a vu, 39 000 patientes ont porté plainte contre Bayer, qui a préféré signer un chèque d'$1,6 milliard en 2020 pour éviter la justice.
Merci beaucoup, Élise Dangean. RMC s'engage pour vous tous les jours dans Estelle Midi aux alentours de 14h30. Dans un instant, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On va parler de l'augmentation du paquet de cigarettes. Ça y est, c'est fait. Elisabeth Borne l'a annoncé ce matin, et puis on reviendra sur la polémique du jour, tiens, avec la nouvelle ministre des Sports qui a parlé des footballeurs, mais je crois qu'elle les prend un peu pour des débiles. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi, toujours avec Thibaut Texer, avec Perico Légas, avec Emmanuel Dancourt et avec Jérôme Lavrieux. Et c'est le moment des infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Ce sont les immanquables, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence avec l'augmentation du jour, Thibaut.
Et oui, c'est celui de la cigarette. Ce matin, sur RMC et BFM TV, Elisabeth Borne annonce la hausse du prix du paquet indexé sur le prix de l'inflation. Alors, c'est déjà le cas actuellement, mais basé sur l'inflation d'il y a 2 ans et plafonné à 1,8%, vendu autour de 10 euros aujourd'hui. Le prix pourrait donc bondir de 6,5%, soit 65 centimes d'augmentation.
Est-ce que c'est une bonne chose, Emmanuel Dancourt, l'augmentation du prix de la cigarette ?
On a eu un débat la semaine dernière, sur ce plateau. Moi, je suis pour, parce qu'on sait qu'en termes de santé publique, ça a des conséquences. Après, j'étais pour aussi qu'il passe carrément à 20 euros pour que ça ait des vraies conséquences et que les vrais addicts, les vrais accros puissent essayer de décrocher, s'appuyer sur ça pour essayer de décrocher et puis sauver leur vie et puis celle de leur environnement, parce qu'il y a aussi beaucoup de cancers à cause du tabagisme passif. Donc, pour moi, c'est une bonne chose.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean Lavrieux?
Ah, oui.
Il fallait aller encore plus loin.
Je suis mal placé pour parler, je suis un non-fumeur. Un vétéran, jamais fumé de ma vie. Mais si vous ne suivez pas, en période quand il n'y a pas d'inflation, vous pouvez avoir un décalage de 2 ans, ce sera toujours la même chose. Mais en période de forte inflation, si c'est le seul produit qui n'augmente pas parce que son prix est régulé par l'État,
c'est comme s'il baissait.
On marche sur la tête, c'est comme s'il baissait. Tout le reste pourrait augmenter autant qu'il veut, sauf l'énergie, qui est un bien indispensable. Fumer, c'est pas un bien indispensable. Donc c'est normal que ça suive l'inflation en temps réel dans cette période de grosse inflation.
Elle a raison, Elisabeth Borne, d'avoir fait cette annonce, Perico.
C'est une mesure gauchiste pour empoisonner les riches. Il y a plus que... Non, mais je vais tourner en dérision. À un moment donné, il n'y a plus que qui pourront se le payer. On est d'accord. Donc le cancer sera accessible uniquement aux riches. Les pauvres n'auront plus de cancer. Vous voyez l'aberration. Qu'on supprime le tabac. On me dit non, parce qu'il va y avoir un marché parallèle, voilà.
80% de taxes sur le tabac.
Oui, mais...
D'accord. Après, ça fait vivre l'État aussi.
Comme au Canada, où par exemple, c'est caché, il n'y a pas de tabac sur la voie publique. Tout est caché dans les petits magasins qui vendent justement le tabac. On n'a pas le droit d'exposer.
C'est pareil
tabac.
Pour l'alcool aussi.
On n'a pas le droit de fumer à X mètres d'une porte. On n'a pas le droit de fumer sur les terrasses. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup d'interdictions
en France.
Qui ne passent pas par le prix.
Oui, mais le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux acheter un paquet de clopes pas cher, tu vas pas chez ton bureau de tabac. Enfin, tu vas pas chez ton buraliste. Tu vas acheter tu vas à la sortie du RER et tu vas acheter une cartouche.
Et donc, du coup, si on t'empêche de fumer dans la rue, sur les terrasses, à X mètres d'une porte, ça peut créer aussi des solutions.
Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison, sauf que c'est juste depuis qu'on a augmenté fortement le prix que la consommation baisse. Voilà.
Non, mais donc, la consommation baisse. Mais...
Dans les faits, c'est depuis qu'on interdit de fumer dans des restaurants, qu'on interdit de fumer dans des réunions publiques. Ma première réunion de conseil municipal, le maire, il fumait la pipe dans un conseil municipal. Plus personne ne se ferait ce
trains,
genre
dans
de
choses.
Ça paraît normal. Et le fait d'augmenter le prix, c'est ce qui a permis de diminuer la consommation.
Et c'est ce qu'a développé le marché. Il y a plein de gens qui se sont détournés sur le tabac illégal, vers le tabac illégal.
Sauf que ça existait déjà avant aussi.
Aujourd'hui, tu sors du métro, il y a des vendeurs de tabac à la sauvette de partout.
Estelle, sauf que la vente de tabac illégal n'a pas remplacé le volume de perte de tabac légal.
Oui,
et donc, ce qui compte, c'est pas de voir le rapport entre l'un et l'autre. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a plus ou moins de gens qui fument et est-ce qu'ils fument moins qu'avant. C'est
oui, la seule chose en termes de santé publique. Ça, oui.
Et ben oui.
Voilà.
Donc, ça montre que ça marche. Et puis, si des gens veulent payer un impôt, payer, acheter une cigarette, c'est payer un impôt volontairement.
Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte.
Et pour l'argent, c'est ce qu'ils font. Oui, donc moi, ça ne me dérange pas parce que je ne le paye pas,
parce
cet impôt-là.
Parce que tu as 8 euros sur 10 qui va à l'État quand tu payes un paquet de cigarettes.
Il y aura une campagne où on considérera que l'alcool et le tabac, et l'alcool partout, y compris dans des boissons, où elle n'est là que par présence structurelle et non pas en démarche culturelle, comme le vin. Et voilà. Non, moi, ce qui me traumatise, c'est qu'on va encore plus avoir plus de vaporettes. C'est plus possible.
Pourquoi ? Oh, cette gêne.
Ah, je peux pas.
Alors, pourquoi ?
Je vois des beaux mecs comme ça, des copains.
Oui, c'est vrai que on voudrait des tétines. Je comprends pas. Ça aide beaucoup de gens. Ça aide beaucoup de gens arrêtés quand même.
En termes de santé publique,
oui,
ça,
non, mais tout, c'est pas le débat. Enfin, la dignité humaine, machin, la vapeur.
La dignité humaine.
Ah oui, non.
Non, mais là, je crois que tu dis ça parce que c'est pas élégant. C'est ça que tu veux dire. C'est plus élégant de fumer, toi.
Et puis ça veut dire que je peux pas.
C'est plus sexy, tu
veux. Ça veut dire que je suis quand même dans l'addiction, mais je peux pas m'en passer. Alors d'accord, voilà.
Non, mais c'est souvent.
J'arrête.
C'est souvent pour arrêter de fumer.
J'arrête de boire.
Il y en a plein qui utilisent ça pour arrêter de fumer, si ça marche.
Oui.
Voilà. C'est pas ce qu'il dit. Il dit l'abstinence, c'est l'abstinence, j'arrête, basta.
Ben voilà, ça devrait être. Là, ça permet de, dans l'illusoire, je sais pas qui fabrique des vaporettes, mais
tout le monde maintenant, parce que ça marche. Tu vois. Nous allons passer. Ah, ça, c'est énorme. La polémique du jour, Thibault.
Eh oui. Interrogé sur la Coupe du Monde au Qatar hier et notamment la conscience des joueurs de foot sur un potentiel boycott, la ministre des Sports a expliqué que les joueurs de l'équipe de France n'étaient pas des hommes politiques, ils sont là pour jouer, dit Amélie Oudéa-Castéra, qui ajoute et qu'elle appelle à élever leur niveau de conscience aux footballeurs, mais pas trop non plus. Une sortie dénoncée par Thomas Mauconduit, le joueur de l'AS Saint-Etienne, réplique sur les réseaux sociaux. Il est évident qu'avec ce genre de mentalité, on n'avancera pas. Nous, on vous demande de prendre les bonnes décisions pour l'avenir, pour notre planète, et vous n'êtes pas foutus de le faire.
En fait, c'est quand même hallucinant, Péricoli, parce que la ministre des Sports, là, elle dit carrément les footballeurs sont débiles. Racisme. Mais c'est hallucinant.
Une forme de racisme social.
Oui. Carton rouge.
Non, mais on voit l'intellectuel un petit peu, je sais pas si elle est énarque ou pas, mais on considère que le football, c'est un sport un peu populaire qui s'adresse à des gens qui ont un niveau intellectuel extrêmement bas. Mais ça en fout, de même que notre histoire de le prix pour l'auditeur d'RMC qui va pouvoir aller au Qatar. Quel bonheur! Alors, on l'envoie en avion, ça fait un scandale, on envoie quelqu'un de pauvre qui va pouvoir une fois dans sa vie aller au Qatar. C'est pas ce petit voyage qui va augmenter la couche d'ozone. Il faut quoi? Faut qu'on aille en char à voile ou peut-être en char à bœuf qui est allé à Istanbul. C'est insupportable. Moi, je trouve qu'RMC a un geste généreux et tous les gens qui aiment le sport devraient être ravis qu'un quelqu'un de pauvre. Voilà.
Là, vous parlez de.
Non, la réaction de ces gens-là est la même que là.
Vous parlez de notre cadeau RMC qui est d'envoyer deux personnes à la Coupe du Monde pour suivre.
C'est un geste social. C'est un geste social et généreux. Et ceux que ça choque sont des gens, sont des pisse vinaigre.
Amélie Oudéa-Castéra, est-ce qu'elle a outrepassé ses fonctions? Moi, je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, au départ, ça part d'un bon sentiment. C'est-à-dire qu'au départ, elle veut dire faut pas leur mettre trop la pression, en fait. Et plutôt pour les dédouaner, mais c'est sa façon
en fait,
de
maladroit.
Parler.
Ce qu'elle essaye de dire, c'est on va les laisser se concentrer sur leur jeu, sur leur football, on va les laisser essayer de remporter cette coupe. Et finalement, ça donne une espèce de pataquès un petit peu maladroit. Maintenant, ce que j'en comprends, moi, ce qu'elle a essayé de dire, c'est qu'on est quand même pas très, très loin de l'affaire du char à voile, puisque tu viens d'en reparler, qui avait fait tellement rire Mbappé, et peut-être dire qu'il faudrait qu'ils aient, eux, une conscience écologique peut-être un peu plus poussée. Mais moi, j'ai l'impression que ces garçons,
ils
suivraient.
C'est pas eux qui réservent leur avion pour aller au match.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ils suivraient si on organisait les choses de manière plus écolo. Ils suivraient, les garçons, très certainement.
Exactement.
Non, t'es pas d'accord?
C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, quand vous êtes joueur de foot, simplement, c'est comme.
T'es pris dans
chef d'entreprise. Si on t'envoie en avion quelque part, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Le joueur de foot, il va pas dire, moi je vais aller. Le joueur du PSG, il va pas dire, moi je vais aller à Nantes en voiture électrique parce que ça polluera moins. C'est impossible. T'as les transports organisés par les clubs. C'est au club de faire quelque chose, pas aux joueurs.
Non, mais la faute, c'est pas de savoir les avions, etc. C'est la manière dont elle parle. C'est une faute de car.
Voilà.
Faut pas leur en demander trop. C'est-à-dire, ils sont tellement cons, on va pas leur en demander trop. C'est ça qu'on a compris. C'est pas ça qu'elle voulait dire, j'imagine.
Non, je pense pas.
C'est ça qu'on a compris. Le problème, quand un ministre s'exprime, il doit penser à ce que les gens vont comprendre de ce qu'il dit. Et elle n'aurait pas eu cette même réflexion. Lui serait pas venu spontanément si on avait parlé du bilan carbone des joueurs de tennis.
Complètement. Qui se déplacent largement autant que
ou des joueurs de golf dont certains sont milliardaires eux aussi et qui se déplacent pas tous en classe éco d'une compagnie low cost. Donc c'est pour ça que c'est un côté qui est désagréable, désobligeant. On va pas en faire 3 semaines là-dessus.
Après, on lui a posé la question sur les joueurs de foot parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar.
Voilà, donc,
il cristallise tout.
Bien, tout simplement. Et...
J'ai bien compris. Oui. Mais sauf qu'on a compris ce que sa suspension voulait dire.
Oui, je crois qu'on a bien, compris. Mais après, elle ne s'exprime pas beaucoup, Amélie Oudéa Castéra. Donc, effectivement, c'est vrai que sa parole est scrutée. Et là, c'était un petit peu malheureux. On va revenir sur la manifestation du jour.
Et oui, alors que la contestation grandit en Iran après la mort mi-septembre de Mahsa Amini, 22 ans, interpellée pour port de vêtements inappropriés, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Paris pour protester contre la répression du pouvoir iranien. Ils se sont rassemblés devant l'ambassade d'Iran à Paris, des manifestants qui reprochent, entre autres, le silence d'Emmanuel Macron. Ils ont été repoussés par la police française via l'utilisation de gaz lacrymogène. Selon la préfecture, un policier a été légèrement blessé. Un manifestant interpellé pour outrage et rébellion. Pour rappel, à ce jour, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées en Iran et 41 personnes au moins en sont mortes.
C'est vrai que c'est assez hallucinant, Emmanuel Macron, de se dire qu'on ne peut même pas manifester.
Elle est où la grandeur de l'État français dans un cas pareil? Déjà, on a un président qui est muet sur l'Iran. Moi, je regarde ça, c'est une pétaudière, l'Iran. De toute façon, les gens, ils crèvent de trouille et pourtant, ils sont dans la rue. Ils sont incroyables, les Iraniens, les Iraniennes. Vous avez vu ces femmes qui enlèvent leur voile, vraiment, en direct. Et on sait ce qu'elles risquent. En plus, la pauvre qui a été tuée, je crois que personne n'a de doute là-dessus, et torturée dans les geôles iraniennes. Et c'est pas qu'elle avait pas de voile, c'est qu'elle était mal portée. Mais vous vous rendez compte, celle qui se dévoile actuellement, le courage de ces femmes. Et nous on se tait et on envoie un petit peu de gaz à nos manifestants. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de d'y voir?
Non, parce qu'en fait, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur les Iraniennes. C'est là, je suis 100% avec, derrière elles, même si c'est très facile de le faire derrière un micro.
Ah bah c'est clair, évidemment.
Emmanuel Macron pourrait le dire aussi. Et leur courage. Non, ce qui est arrivé hier, la manifestation était tout à fait autorisée. On a empêché personne de manifester. C'est qu'il y a une règle qui est intangible en termes de sécurité publique. C'est qu'une manifestation ne peut pas s'approcher d'une ambassade et on ne peut pas la laisser dégénérer, même si c'est l'ambassade des pires salopards que la Terre porte.
Là, c'était l'Iran, en l'occurrence.
Il y a un risque après de réciprocité, vis-à-vis de notre ambassade dans les autres pays. Et si nous, on laisse faire, c'est en contravention avec nos engagements internationaux. Et on met en danger nos propres personnels consulaires et d'ambassade dans d'autres pays où ils diraient, mais vous laissez faire ça chez vous? Nous, on laisse faire ça chez eux. C'est la réciprocité. C'est pour ça que si vous avez une manifestation qui s'approche d'une ambassade et qui a l'air d'une manière hostile, en dernier recours, on est obligé de disperser. C'est juste pour ça. C'est pas un message politique pour dire on soutient.
Ah non, je suis sûr que c'est pas un image.
Non, mais c'est bien que vous l'expliquiez, Jérôme Lavrieux, parce que
on peut pas faire autrement. Bien sûr, parce que sinon, on met en risque notre propre personnel dans le monde entier. Et je rappelle qu'on est le deuxième réseau consulaire du monde derrière les États-Unis.
Après, c'est vrai que l'image est rude.
Je sais, mais à un moment,
l'image est rude, et c'est vrai qu'il y a un silence assourdissant de la France sur ce dossier. Et en vrai, voilà, on est le pays des droits de l'homme. On mérite. Enfin. Ça mériterait quand même qu'on dise un petit mot. Et c'est vrai que c'est étonnant le silence d'Emmanuel Macron là-dessus. Ces femmes sont extraordinairement courageuses.
Parce qu'on est tellement focalisé sur la renégociation et de faire re-rentrer l'Iran dans l'accord de dénucléarisation.
On n'ose rien dire.
Ce qui serait d'une manière mettre fin aux énormes souffrances qui est celui du peuple, parce qu'il y a l'embargo qui a été décrété après la décision stupide de Trump de mettre fin à cet accord. Et bien sûr que le président, quand il est à l'ONU, qui serre la main du président iranien Raisi, c'est pas pour lui dire vas-y, tape sur les femmes.
Non, bah évidemment.
C'est pour dire il faut qu'on négocie et il faut qu'on tu rentres dans cet accord international.
Tu parlais du président de la République, en l'occurrence, elle est de préserver l'extraterritorialité des territoires diplomatiques.
Ok, donc on laisse faire en fait.
C'est la République.
Non, non,
on autorise la manifestation.
Une ambassade d'un
pays. On autorise. On applique l'état de droit.
Non,
quand il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu une manifestation monstre, place de la Concorde. La France avait appelé justement à ne pas aller à l'ONU, et Nicolas Sarkozy, je me souviens, j'ai assisté à la conversation, il disait « je ne peux pas laisser approcher l'ambassade des États-Unis, donc je vais donner des consignes aux forces de l'ordre d'utiliser tous les moyens possibles, il n'est pas question qu'il y ait un caillou qui arrive dans le jardin ». Dans l'ambassade des États-Unis, c'est l'image de la France. Voilà. Ça nous permet ensuite. Vous savez,
mal anticipé, Péricot.
Ça a été mal anticipé.
Mais c'est même pas ça, c'est que ça a été mal expliqué. Si t'expliques
oui, évidemment.
C'est Jérôme Lavrieux qui nous l'explique. Personne ne l'explique. À un moment, quelqu'un du gouvernement explique, le ministre de l'Intérieur dit voilà ce qui se passe, on ne peut pas, et dit exactement ce que vient de dire Jérôme Péricot,
pays où les manifestants peuvent atteindre l'ambassade du pays condamné, jeter des cailloux, voire rentrer, ce sont des dictatures et c'est des pays dirigés par des salauds. des pays où la démocratie existe et où l'état de droit existe, on protège l'extraterritorialité. Autre chose est de dire, nous rompons les relations diplomatiques. Tant qu'il est là, on le protège. C'est la dignité de la République et la grandeur de
même
la France.
Les salopards.
A été. Voilà. Et donc, les manifestants qui pensaient qu'ils allaient pouvoir accéder à l'ambassade d'Iran pour casser quelque chose, c'est des crétins. C'est tout. Maintenant, ils ont bien fait de manifester parce que cette cause est formidable.
Merci de le rappeler. Voilà. On est avec Vincent Moscato, le super Moscato Show, le premier de la semaine. Ça va, Vincent Moscato?
Monsieur Dame.
Tiens, je te mets ton micro.
Hop
là.
Ouais.
Ah oui. Et tu nous dis ça chaque jour. Tu nous
dis ça. Non, mais là, le débat, là, c'est quand même.
Ah ouais, c'était. Ah bah, je suis sûr que l'Iran, ça te.
C'était sérieux. Oh, tu sais, oui, ça me passionne. J'aime beaucoup tout ça.
Enfin, j'aime pas, non, mais bon. Quel week-end de sport, Estelle, c'était marqué.
Incroyable.
Ouais. Tu le fais très bien.
Vous avez
quel week-end de sport, c'était bien joué, non?
What a weekend.
Alors, oui, le début du jour, c'est les Bleus ont perdu leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde.
2-0 contre le Danemark.
2-0.
On a été bien nuls.
Danemark.
Oh, quand même. Tu sais que ça te fait rire, en plus. Ça te fait marrer. Mais oui, bah, si, quand même, je te vois.
Ça me paraît curieux à
t'as le sourire aux lèvres.
Non, ça me fait pas rire.
T'as l'œil qui frise.
Je frise un peu. Pas des cheveux. Un peu de l'œil, bien entendu. Une défaite peut-elle faire du bien?
Oui, on sera tranquille. C'est ce qu'a dit Griezmann.
On se raccroche. C'est bientôt, c'est la Coupe du Monde, c'est en novembre.
Ouais, c'est ça.
On perd contre le Danemark, on retrouvera la Coupe du Monde.
Oui.
Oh, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je vous amène là. Pouf. Les adieux de Federer vous ont-ils ému?
Ouais, ouais. Oh, bah oui, Federer Forever.
Pissé partout, tellement j'étais.
Les larmes de Nadal, quelle tristesse.
Les larmes de Nadal, ouais, t'as vu ça?
Ouais.
L'Espagnol, oui, l'Espagnol, il était ému.
Ouais, oui.
Il c'est un grand mec qui s'en va. Il y en a des sportifs, des grands mecs.
Suisse.
Lui, c'est la classe internationale. Ouais.
Merci de nous le rappeler parce
non,
que
c'est la classe
on n'avait pas compris.
Quand est-ce qu'on aura un Suisse?
Non, j'essaie d'être un peu sérieux.
C'est un Suisse.
Eh oui, puis on n'aura pas de Suisse avant
Mbappé. Mbappé veut-il trop en faire? Un Moscato Show sans un débat sur Mbappé.
Oui, c'est pas le Moscato.
Ce ne sont pas les Moscato.
Et tu parles pas de Tudor et de Marseille, là, aujourd'hui.
C'est comme un repas sans fromage, tout simplement.
Et normalement, il y a l'Olympique de Marseille aussi.
L'Olympique de Marseille, non, peut-être pas.
Moi, ça m'étonne.
Si tu veux.
Bah oui.
Il se passe toujours quelque chose.
Oui, je me sens dépaysé, sinon. Il y a toujours un truc avec Tudor. Ça m'embête un peu, là, que vous n'en parliez pas.
Toi, t'as l'œil qui frise.
Ouais, tout à fait.
T'es en forme, t'as passé un bon week-end.
Eh ben écoute, tout va bien. Le Super Moscato Show, c'est tout de suite. Et nous, on se retrouve, bien sûr, demain, midi 15h, dans Estelle Midi. Salut à tous. Salut.